Allez, c'est parti. C'est les enfants à venir. Bonjour et bienvenue dans le podcast du blog Les enfants à venir. Une réflexion personnelle, intime. Des conseils dans le but de se simplifier la vie. La vie sans école, c'est un choix, c'est une philosophie. Quand on a envie de sortir du rang, quand on rêve de mieux pour nous et pour nos proches. Vous vous apprêtez à écouter une interview d'une famille ayant choisi la vie sans école. Cette interview est faite dans le cadre d'un défi que je me suis lancé. Je vous rappelle ce défi. Interviewer 15 familles en 15 semaines afin de vous fournir un panel d'exemples de pratiques d'instruction en famille. Et aujourd'hui, je reçois Isabelle. Bonjour Isabelle.
Je te remercie de bien vouloir partager un petit moment de ta vie avec nous.
De rien.
Merci, c'est cool. J'insiste. Et du coup, je vais te laisser te présenter si tu veux bien.
Alors là, il faut que tu me précises quelques petites choses.
Non, présente-toi comme tu veux. Je te demanderai après s'il me manque des choses. Présente-toi comme tu veux, toi et ta famille.
Ok, donc... moi, je m'appelle Isabelle et j'ai 28 ans et je suis séparée du père. On a un fils de 6 ans aujourd'hui qu'on ne scolarise pas. Moi, j'habite à l'autre bout de la France par rapport au père et donc le petit fait les allers-retours à peu près toutes les 3 semaines. Il passe 3 semaines chez son père et 3 semaines avec moi, d'où l'instruction en famille.
D'accord. Et si vous n'étiez pas séparés géographiquement?
Non, on était parti sur l'instruction en famille de toute façon. Déjà, d'accord, à l'origine, on était parti sur l'instruction en famille. Maintenant, c'est juste devenu obligatoire, quoi. C'est incontournable maintenant.
Ok. Et comment vous en êtes venu à faire l'instruction en famille?
Ben, son père et moi avons tous les deux été... Alors, plusieurs choses. Il y a d'abord le désaccord intellectuel. On n'est pas d'accord avec ce que l'éducation nationale véhicule. Et puis ensuite, il y a aussi nos casseroles individuelles. Donc, le père de mon fils a lui été marqué par l'école, par la structure et le mode d'apprentissage qui sont complètement contre nature et qui donc l'ont beaucoup écœuré de l'apprentissage, oui, dans l'absolu en général, et surtout de l'apprentissage intellectuel. Donc, il s'en est écarté en fait. C'était quelque chose qui maintenant, aujourd'hui encore, est associé à un emmerdement profond, pour être franc et direct. Moi, c'est plus la structure sociale, c'est plus les rapports sociaux, la hiérarchie, l'ambiance entre les enfants, les rapports humains au sein de l'école qui m'ont vraiment traumatisée. J'en ai beaucoup souffert et aujourd'hui encore, c'est dur, quoi. Donc,
d'accord.
Voilà, on avait vraiment... Enfin, il n'y a pas grand-chose qui nous a plu à l'éducation nationale.
Ok. Vous avez tous les deux été à l'école?
Ouais.
Ok. Et comment vous vous organisez d'un point de vue budget, financièrement? Est-ce que vous avez un travail tous les deux?
Ben, maintenant qu'on est séparés, c'est un peu difficile pour moi. Au début, c'était quand on s'est installé en maraîchage bio, quand j'étais enceinte. Ce qui permettait de travailler sur place, parce qu'on avait trouvé des terrains juste autour de la maison. Donc, c'était cohérent. L'enfant pouvait être tout le temps dehors et avec nous, pendant qu'on était dans les champs. Et puis, moi, je n'étais pas indispensable dans les champs. C'était essentiellement le père qui s'en occupait. Quand on s'est séparés, comme on faisait une garde alternée, on faisait moitié de semaine chacun à peu près. Ça me permettait, moi, je travaillais en auto-entrepreneur. Donc... ça me permettait de travailler la moitié de la semaine et de garder mon enfant l'autre moitié de la semaine.
D'accord.
Et maintenant qu'on est à grande distance et que c'est 3 semaines pleines, le père de mon fils, lui, il fait garder l'enfant une partie de la semaine chez ses grands-parents. Et moi, je suis en train de. Bah, la seule option pour que je puisse travailler, ce qui n'avait aucun sens, c'était de me trouver un emploi salarié et de mettre l'enfant à garder. Ça n'avait aucun sens en elle-même. Donc, c'était d'avoir un projet agricole aussi. Donc, moi, c'est la seule solution que j'ai trouvée qui me corresponde un minimum. Après, il y en a peut-être d'autres. Moi, la seule solution que j'ai trouvée qui me corresponde, c'était de créer une autre activité agricole.
Ok. Et du coup, est-ce que tu as mené ton projet à bien? Est-ce que tu as réussi à trouver suffisamment de temps?
Là, c'est en cours pour l'instant. On est en train de monter le projet. Il n'est toujours pas monté. Donc, ça prend du temps et ça va prendre encore bien un an, je pense, avant que ça puisse vraiment commencer à ressembler à quelque chose de réglé, régulé, qui me permette. Mais
D'accord.
je ne suis pas très douée en organisation non plus. Donc, on verra bien. Hein. Ça n'a pas l'air de déplaire à l'enfant qu'il y a pas une structure fixe, une organisation fixe des jours, ne serait-ce que dans une journée ou même dans la semaine,
Oui.
parce que lui-même n'est pas forcément structuré en fait. Donc il y a des moments où il est émotionnellement plus serein ou bien où il est intellectuellement disponible, où c'est juste le moment et à ce moment-là on fait. Et quand ça l'est pas, ça l'est pas. Donc
Et est-ce qu'il t'aide dans la formation de ton projet?
le petit?
Oui.
Pas vraiment. Après, pas... non, pas vraiment. C'est pas très drôle pour l'instant ce qu'on fait. Et puis il est un peu petit et pour l'instant assez rapidement il se détache des activités. Je pense que ça
D'accord.
lui plairait parce que c'est du bricolage globalement et qu'il aime bien ça parce qu'il en a fait pas mal avec son père aussi et que c'est tout en extérieur. Mais il se détache assez vite. Il se désintéresse assez vite quand c'est quelque chose qui est pas pour dont l'objectif n'est pas de s'amuser.
OK. Il profite de cette vie dehors.
Oui, là par contre, oui, il profite bien de cette vie dehors. Du coup, on va essayer de faire des choses qui lui font plaisir pour qu'il puisse s'approprier l'espace que nous, on s'approprie pour notre activité. Moi, ça me plaît ça va être une activité de chèvrerie, ça me plaît d'être chèvrière. Et j'ai envie que l'espace dans lequel je travaille, les habits soient aussi favorables, soient aussi
D'accord.
adaptés à ses besoins, ses envies. Selon ce qui demandera, on essaiera aussi de lui faire des choses pour lui, des choses qui lui plaisent, quoi.
Et du coup, vous vous organisez comment en point de vue? Est-ce que tu as fait des choix pédagogiques? Est-ce que tu utilises certaines méthodes? Comment vous faites?
J'ai pas fait de véritable choix pédagogique. J'ai deux choses. Pour moi, il y a deux canaux principaux. Le premier, c'est mon développement personnel. C'est-à-dire que plus je serai épanouie, plus je serai disponible, à l'écoute, sensible et donc capable d'instruire convenablement l'enfant selon ses rythmes et ses besoins et avec du recul, avec de la méthode, avec une structuration. Enfin, plus moi je serai épanouie et plus je serai disponible pour lui. Et ensuite, il y a effectivement la recherche, donc c'est des lectures, des questionnements. Juste avant qu'on se contacte. J'étais en train de regarder un petit peu. On avait regardé le dessin animé Vice-versa.
Oui.
Et je l'ai déjà vu, mais là, ça a réveillé encore d'autres, de nouvelles questions. À dire, mais c'est formidable cette histoire de fonctionnement cérébral. Et j'étais en train d'essayer de trouver des schémas, j'en ai trouvé un d'ailleurs qui m'a plu, mais des schémas, des réflexions, des suites qui permettraient de comprendre la mécanique dans le cerveau. Parce que. J'en ai beaucoup besoin pour réussir à comprendre mon enfant, en fait. Et c'est
OK.
vraiment mon objectif.
Et du coup, pour l'instant, on pourrait dire que vous êtes plutôt en unschooling.
Ouais, oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Et ça convient, vous êtes content pour l'instant de ce choix de vie ou est-ce que tu aimerais plus tard un peu plus diriger ces apprentissages ou au contraire plus le suivre et le découvrir au fur et à mesure et l'accompagner?
Ni l'un ni l'autre, on est un peu dans les deux en fait. On est un peu entre deux. Moi, ce que je veux, c'est de réussir à suivre son développement. Et parmi le suivi du développement, je pense, et j'en suis pas encore certaine, mais je pense que l'introduction de la notion de contrainte, même si c'est à petite dose, c'est pour l'instant ce que je veux faire, hein, à petite dose.
Oui.
Comment dire, à condamner ou à bannir complètement. Donc, c'est un peu des deux. Un peu, on laisse faire. Un peu, on intervient, on contraint. Et puis, on relâche pour relaisser faire. Mais tout ça, c'est de l'idéalisme, là. J'en suis pas du tout capable encore. C'est vraiment très dans le concret. C'est beaucoup plus brouillon. C'est de la matière brute. C'est de l'émotionnel. Donc, enfin, il y a beaucoup d'émotionnel. Donc, c'est beaucoup moins facile à faire que concevoir intellectuellement.
D'accord. Et du coup, tu disais que toi, ton objectif premier, c'est d'être bien. Est-ce que tu arrives à garder du temps suffisamment pour toi ?
Ah bah, moi, je l'ai pas tout le temps, quoi. Dans le schéma dans lequel on est, nous, toutes les trois semaines, j'ai trois semaines off, en fait. Où j'ai à nouveau juste moi et mon projet à gérer. Donc,
d'accord.
Oui, du coup, j'ai du temps pour moi, c'est certain, puisque j'en ai trois semaines d'un coup, quoi.
Ouais, ça te convient.
Ouais, enfin, ça me convient, c'est pas l'idéal. Ça me convenait mieux quand on faisait une semaine sur... Enfin, pas une semaine sur deux, mais une demi-semaine chacun.
Ok.
Ça me convenait mieux parce que j'étais en mesure de travailler. Je pouvais fixer un emploi du temps. En fait, j'avais des semaines fixes, on va dire.
Ok.
Donc, ça me convenait mieux. Mais il y a des avantages aussi qui ne sont pas anodins, qui sont que bah, pendant trois semaines, vraiment trois semaines entières, je m'occupe plus que de mon projet ou de moi, selon l'état dans lequel je suis.
Eh oui.
Donc, c'est pas... là, les semaines, juste une demi-semaine, ça me permettait d'avoir une demi-semaine pour bosser, une demi-semaine avec le petit. Donc, j'avais pas de moment où je pouvais relâcher la pression, quoi. J'avais pas le choix.
Eh oui.
Donc, là, c'est quand même pas mal.
Et je me permets de revenir sur ton organisation de travail, parce que du coup, tu disais que pour l'instant, ton activité n'avait pas réellement commencé. Du coup, j'imagine que c'est d'un point de vue financier.
Ouais.
Et comment tu arrives à t'organiser, du coup, pour en vivre, quoi ?
Oh, c'est la merde. Ouais, non, là, j'ai jamais eu la corde au cou aussi serrée que ces derniers mois-là.
D'accord.
Vraiment, vraiment. Là, au niveau financier, j'ai la chance d'avoir trouvé une coloc.
Oui.
Ce qui permet que, ben, quand je peux pas payer, j'ai quand même à manger. Donc, même si j'ai payé au début du mois et qu'à fin de mois, globalement, à partir du 10-15 du mois, j'ai plus de sous. À peu près.
D'accord.
Donc, une fois qu'on a payé tout et que j'ai fait ma part des courses, après, j'ai plus de sous. Donc, heureusement qu'on est en coloc parce que, ben, du coup, il y a quand même toujours de la nourriture à la maison parce que les autres colocs ont plus d'argent que moi quand même, un petit peu plus.
Ok.
Donc non, là financièrement, mais c'est aussi parce que j'ai des animaux à charge. J'aurais pas d'animaux à charge, je m'en sortirais correctement. J'aurais juste moi, mon fils et mon chien, hein, ça irait. Sauf que les chevaux, mes ânes et les chèvres qui arrivent, ça va pas être la même là. Donc, mais sans ça, ça serait vivable, ça serait viable même. Même juste avec les chèvres et sans les chevaux, ça serait viable. C'est le fait qu'il y ait les chevaux qui me bloquent, enfin qui pompent la majorité de l'argent.
Eh oui, parce que je crois que tu en as déjà pas mal.
Ouais. J'en ai déjà pas mal. Trois chevaux et deux ânes. Donc, ça coûte cher, là, juste en foin, parce que je ne paye plus rien d'autre. Donc, je ne paye que le foin. Et bien, juste en foin, ça me pompe les deux tiers de tout l'argent que je peux avoir pendant le mois. Donc, c'est un peu délicat.
Si vous avez du foin de bonne qualité, pourquoi vous vous mettez pas au foin ?
À faire du foin ?
Non, à
manger du foin. Oh, oui. J'y ai pensé. Oh, je t'assure que j'y ai pensé. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire comme eux. Déjà, quand tu les vois manger, tu te dis, ça a l'air vraiment vachement bon quand même. Et puis ensuite, c'est plus la peine. J'ai plus de moyens de faire autrement. Je vais manger le foin des chevaux et puis on sera contents.
Parce qu'au niveau volume, je pense que ça te coûtera moins cher.
Ouais, c'est clair. 100 kilos de foin par mois, ça me coûterait 40 euros, c'est bon.
Voilà.
On va sourire tous les deux, je crois, mon fils et moi.
Bon. Et du coup, quand tu dis que tu as quand même un petit peu d'argent au début du mois, tu touches le RSA, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et je change complètement de sujet, mais... Ouais. Comment tu vis le regard des autres par rapport à votre choix ?
Waouh, c'est pas facile.
Parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les questions. Du coup, je me dis, ça serait intéressant de poser la question.
C'est pas facile.
C'est pas facile ?
Non, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a des gros préjugés en permanence. Puis en plus, j'ai un enfant qui est potentiellement, je ne suis pas certaine, mais on est en train de voir avec l'assistante sociale si je ne peux pas trouver la possibilité de lui faire passer les tests gratuitement. Mais je soupçonne mon enfant d'être un haut potentiel, ce qui est au niveau intellectuel, personnellement, enfin, je ne trouve pas qu'il y ait une avancée intellectuelle énorme. Il n'est pas surdoué dans le sens commun. C'est juste que la gestion émotionnelle est très difficile, beaucoup plus difficile. Donc, je me retrouve à être dans la position d'une mère forcément trop laxiste avec un enfant mal élevé.
Eh oui.
Ce qui est assez difficile parce que du coup, forcément, on va sous-entendre ou bien on va déduire que l'enfant serait mieux éduqué s'il était à l'école et que c'est forcément parce qu'il a des manques qu'il est mal élevé et qu'il est comme ça et qu'il est comme ci et que voilà. Ensuite, il y a une espèce de parano instantané. La première chose qu'on me dit, c'est « Et la socialisation ?» Alors moi, de ce que j'ai observé, je sais qu'il ne faut pas que je fasse complètement confiance à mon objectivité, puisque je ne suis pas objective. Mais de ce que j'ai observé, mon gamin, si je le mettais à l'école, la confrontation avec les autres enfants serait presque traumatisante, si pas carrément traumatisante pour lui. Parce que la gestion émotionnelle, c'est quelque chose qu'il doit encore apprendre. Moi, quand je vois des parents qui ont des enfants qui sont sympas, je ne comprends pas, en fait. J'hallucine, je te jure, j'hallucine. Les gamins, moi, mon petit, dès qu'il était tout petit, mais quand il hurlait, il faisait péter les vitres, quoi. C'était, et depuis toujours, il a une exigence de lui-même, il a toujours été... Moi, j'étais restée sceptique quand ma belle-mère avait observé qu'à 11 mois, à 10 mois, quand il commençait à se mettre debout, qu'il galérait à s'accrocher aux tables et qu'il retombait et qu'il se mettait à hurler, elle disait « Ah, quand même, il est quand même très exigeant avec lui-même. » On voit que, bon, moi, je me disais, enfin, ça va, mamie, il est tout petit, enfin, j'y prêtais pas trop attention. Sauf que cette tendance-là, elle y est toujours aujourd'hui.
De façon exacerbée, en grandissant.
Exacerbée, ouais, vraiment. Il a fallu, alors, je sais qu'il a, intellectuellement, il reste brillant. Quand un jour, j'ai réussi à trouver les mots, alors, j'ai dit des mots, et c'était les bons pour lui, donc c'était vraiment pas calculé, mais je lui ai dit que le cerveau, pour apprendre les choses, il avait besoin qu'on les lui répète, pour qu'il imprime bien. Pour qu'il s'en imprègne, il avait besoin qu'on les lui répète 20, 30 fois, et que donc c'était normal que la première fois, ça ne soit pas intégré, et qu'on le répète, on le répète, on le répète, jusqu'à ce que ça marche, que ce soit un geste, que ce soit un mot, que ce soit une notion, enfin ce genre de choses. Ça a tilt dans sa tête, je ne pense pas que ce soit un tilt définitif, ça continue à être travaillable, hein, mais c'est... je ne sais même plus pourquoi je suis partie là-dessus. La question était...
La question était le regard des autres, mais du coup, tu étais partie sur son hypersensibilité.
Oui.
Et sur le fait qu'il cassait des vitres déjà à 10 mois.
Ouais.
Et du coup, tu avais trouvé juste.
Tu cassais pas les vitres. Non, tu cassais pas les vitres. c'est oui, sur le regard extérieur. C'est pour revenir là-dessus, c'est que. Pour moi, la sociabilisation avec les enfants serait la sociabilisation forcée serait une souffrance. Là où je vis aujourd'hui, il a l'occasion de sortir, de retrouver des enfants s'il en a envie. Je lui ai proposé diverses activités qui sont proposées dans notre village. Les groupes d'enfants l'angoissent. Rapport avec les autres enfants, ça l'angoisse parce que la tempête émotionnelle que ça génère à l'intérieur de lui n'est pas encore gérable par lui.
D'accord.
Donc, le mettre à l'école, la sociabilisation, ben ouais, mais en fait, il me semble qu'il ne soit pas encore en mesure de gérer son émotionnel en groupe, quoi, en groupe d'enfants. Hein.
Et du coup, ça te conforte dans l'idée de continuer l'IUF?
Ouais, mais pas grand-chose pourrait me faire revenir sur ma position quand même, mais il me fait mal le regard des autres quand même.
Il te fait mal.
Seule, quoi. Ah ben ouais, je me sens seule, hein. Vraiment, hein. Et au final, dans les familles, entre familles d'IEF, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience puisque je n'ai pas rencontré beaucoup. Mais dans le peu de contact que j'ai eu, c'est que globalement, chacun a organisé son quotidien, en fait.
Ouais.
Et donc, on n'est pas vraiment solidaires. On est des électrons libres. Donc, de temps en temps, on peut peut-être se retrouver. Mais moi, ce n'était pas ça que je cherchais à l'origine. C'était vraiment des gens solidaires. On essaie de se réunir, mais tout le temps, en fait. D'élever nos enfants ensemble, que ce soit quelque chose de commun, mais complètement commun.
Oui, que ça soit plus simple.
Ouais, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Dans ton lieu de vie, les interactions entre les adultes sont libres, avec les adultes sont libres, parce qu'on est d'accord, on a confiance les uns les autres.
Oui.
Là, aujourd'hui, quand je laisse mon enfant dans le village, personne n'osera presque presque personne n'osera intervenir. Parce qu'ils ne savent pas comment je l'éduque.
Oui.
Tu vois, comme moi, j'aurais plus de mal, enfin, j'aurais aussi un peu de mal à interagir avec les enfants des autres, parce que c'est les enfants des autres, c'est pas juste des enfants. Donc, moi, j'espérais autre chose quand, dans les relations entre les familles UF. On est très isolés, oui. En fait. Très
seul. Il n'y en a pas autour de chez toi ?
Il y en a un peu, mais je te dis, j'ai eu cette sensation d'éloignement, quoi. Pas de wouhou, trop cool, une nouvelle famille, enfin, une nouvelle, oui. Un nouveau couple de personnes qui font comme nous, c'est trop cool, on va essayer de se rencontrer, de se retrouver, tu sais, on se retrouve tous les jours, tous les tels jours, à tel endroit. Non, non, ça a été juste, bah, bon courage,
tu vois. Ah ouais, d'accord.
Mais avec une vraie sollicitude, une vraie bienveillance, mais c'était juste bon courage, et pas que ça... Je peux pas m'occuper de toi, j'ai à m'occuper de ma vie, tu vois.
Et oui, oui.
Ce que je comprends aussi, hein, mais...
Et ouais, du coup, le questionnement social par rapport à ça est effectivement assez limité, c'est pour ça que tu te sens seule.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Que du coup, il n'y a pas énormément de rapport entre les familles, qu'il n'y a pas forcément de la bienveillance, que chacun pense de façon privilégiée à sa vie de famille et que du coup, toi, tu ne te retrouves pas, ouais. En tant qu'adulte, à échanger avec l'autre, tu ne te retrouves pas soutenue.
Oui,
et que,
c'est ça.
Inversement, ton enfant n'a pas la possibilité d'avoir des contacts avec d'autres enfants, à part avec des groupes, comme tu disais, et ça l'angoisse.
Ouais. Donc, c'est vrai que quand il y a... Là, on a une petite voisine qui est très douce et qui est toute petite. Hein, elle a 3 ans et demi, donc elle est plus jeune que lui. Et qui a un tempérament beaucoup plus de suiveuse. Donc, du coup, entre eux, ça se passe très bien. Elle l'adore, il est très content quand elle est là parce qu'il a un compagnon de jeu qui ne se met pas dans la confrontation. Qui ne le met pas dans la confrontation. Donc, pour lui, c'est plus facile. Ça se passe bien. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de rapport de force. C'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, ça, comme ça se passe bien, il est content. Elle, il veut bien l'avoir souvent. Mais le reste, c'est plus dur, il me semble. Mais je ne suis pas dans sa tête, tu vois. Donc,
Oui. Mmh. Ok. Et je vais te poser une toute dernière question. Mmh. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose ? Selon toi, est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'aurais pas posée ?
Alors, dans quel but ? Il faut que je sache à quoi serviraient les questions.
Enfin, les réponses. Alors, c'est vrai que je ne t'ai pas exposé le but de ces interviews. Le but était de faire découvrir à tout le monde, aux familles intéressées, que l'IEF n'est pas réservé à une classe sociale ou à une famille, à un profil particulier, et qu'il y a autant de façons de faire l'instruction à ses enfants que de familles différentes. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un point de ta vie qui n'a pas été abordé et que tu aimerais partager avec nous ?
Dans ce but-là ?
Oui, ou dans un autre, après, peu importe, c'est ouvert, quoi. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de ta vie que tu aimerais partager avec d'autres familles qui pratiquent l'EUF ?
Je crois pas. Je crois pas. C'est juste le seul point le plus difficile, c'est le sentiment de solitude.
Le sentiment de solitude.
De courir à contre-courant. Ça, c'est dur dans ce monde aujourd'hui. Donc, si on arrive, mais c'est normal, hein. Enfin, pour l'instant, on est dispersés. Dans mon village, je suis bien entendu la seule. C'est le jour où il y aura forcément quel que soit le village, au moins 3 familles, 4 familles qui feront l'IEF, que la solitude sera rompue, c'est juste qu'on n'est pas assez nombreux, c'est normal.
Du coup, ça me fait penser quand même à autre chose. Est-ce que tu serais prête à déménager pour avoir ce côté-là que tu n'as pas dans ta vie ?
Aujourd'hui, non, parce que j'ai un projet en cours et que c'est pas un projet qui est juste un projet. Détaché du lieu, c'est pas juste je cherche des terres ou j'ai des terres sur lesquelles je m'installe, c'est vraiment il a été façonné par le village, par ma conception du village, par ma conscience que dans notre village il n'y a pas de il y a une demande, il y a une attente d'autonomie alimentaire et il y a la possibilité de le faire, c'est vraiment parce que j'ai inscrit mon projet dans mon village qu'aujourd'hui non, je ne serai plus en mesure de déménager. Par contre, d'accueillir et d'essayer d'accompagner des familles qui voudraient, oui, avec grand plaisir, accompagner et essayer d'aider sur place des familles qui voudraient s'installer, qui font déjà l'IEF. Aller dans les infirmeries. Oui, ça, ce serait avec joie. Grande, grande joie. Mais pour l'instant, je ne peux pas proposer autre
chose. Eh bien, écoute, le message est lancé.
C'est super.
Je te remercie, Isa.
Merci à toi.
Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast dans une semaine tout rond. Si vous souhaitez participer, je vous laisse me contacter grâce au formulaire de contact du blog. Merci d'avoir écouté cette interview et je vous dis à très vite.